Bonjour. Je voulais revenir sur, juste rebondir sur quelque chose que Lisa avait dit hier. Cette phrase que nous avons retenue, que moi j'ai retenue en premier, que j'ai entendu le maître de mon maître dire, donc Gimpo, a dit à la fin d'une longue retraite, si vous ne voulez pas quitter le Zendo, n'y rentrez pas. Donc, pour le groupe de personnes, je crois qu'il y avait 300 personnes dans cette retraite qui entendaient ça suite à les questions de quelqu'un qui, avec beaucoup de sincérité, disait c'était comme ça, c'était la dernière réunion et la personne disait bah, qu'est-ce que je vais faire demain, c'est difficile de partir. Je dois retrouver ma femme, mes enfants, mon boulot, ma voiture qui est en panne, les impôts à payer, tout ça. Et donc, d'entendre le maître qui dit si tu ne veux pas rentrer dans le Zendo, si tu ne veux pas quitter le Zendo, n'y rentrez pas. C'était un peu dur quand même d'entendre ça. Mais ce qu'il voulait dire, et donc je voulais élaborer là-dessus, ce que Lisa avait dit, ne sois pas attaché à cette expérience. Et Gimpo allait, dans ce qu'il avait dit, ça allait même plus loin que ça. C'est ça que je veux aborder aujourd'hui, c'est... quand il dit « si tu ne veux pas quitter le Zendo, n'y rentre pas », c'est ta tête qui crée le Zendo et le pas Zendo. C'est avec tes concepts que tu dis « entrer et sortir ». C'est tes concepts qui créent aujourd'hui, demain. Pratique, pas pratique. Activité, pas d'activité. Activité agréable, activité pas agréable. Enfin, aller au boulot, c'est pas la même chose que de nettoyer les toilettes ici. Peut-être que c'est un soulagement d'aller au boulot demain et pas nettoyer les toilettes, je sais pas. Mais en tout cas, c'est notre tête qui crée ces différences. C'est nos concepts qui créent ces différences. Et donc, quand Gimpo dit ça, c'est... Ne rentre pas dans le concept du Zendo, en fait. Si tu ne veux pas le quitter. Alors ça s'applique, ça va... c'est très profond, hein. C'est très pratique, très concret, mais c'est aussi très profond. Un des grands maîtres de notre lignage, Dogen, qui a amené le Zen de Chine au Japon, qui était un profond philosophe, qui était un peu tombé aux oubliettes. Personne ne parlait beaucoup de Dogen. C'est juste depuis 100 ans à peu près que Dogen est revenu, a été redécouverte et considérée comme un grand maître. Il n'avait pas beaucoup de disciples, il n'avait pas beaucoup d'élèves. Et c'était tellement profond que c'était inaccessible. Ce n'était pas très accessible. Ben, une de ces choses, c'était ce qui est une de ces textes, c'est Uji, qui est en anglais « being time ». Or time being. Je ne sais pas comment traduire ça en français. Est-ce que quelqu'un connaît ça? Non. Je ne sais pas ce que c'est le terme en français. C'est Et ton temps, ou le temps étant, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et je suis sûre qu'il y a... Enfin, je sais qu'il y a des traductions officielles de Dogen en français, c'est juste que moi, je ne les connais pas. Et donc, dans ce texte, Uji, il dit... on a toujours l'impression, on a toujours l'idée... Non, qu'est-ce qu'il dit ? J'avais noté une version de ça parce que je ne l'ai pas. Il dit... ah oui. Peut-être que tu penses que le temps ne fait que passer. Et peut-être que tu ne comprends pas que le temps n'arrive jamais. Donc, on a cette idée que le temps est toujours, on dit, le temps s'écoule sans cesse, que le temps est toujours en train de passer, de disparaître. Mais il ajoute, mais peut-être que tu ne comprends pas que le temps n'arrive jamais. Enfin, c'est qu'on a cette idée que ça disparaît, que ça s'en va, mais c'est plutôt que ça n'arrive jamais, le temps. Et il y a une anecdote de cette très étrange maître zen à San Francisco dans les années... je dis étrange parce qu'il ne collait pas à le truc carré, parce que c'est un maître zen. Les années 70-80, il est mort en 1990 à San Francisco. C'était un type qui avait passé la plupart de sa vie en tant que drag queen. Comment on dit, transvestie, drag queen, on dit en français. Ouais. Il était homosexuel, il gagnait sa vie en faisant ça, il était très célèbre dans le monde à cette époque, à San Francisco. Et il a commencé à pratiquer le zen avec Suzuki Roshi, et donc il est devenu moine. Et il a arrêté de porter les talons hauts et il s'est mis en robe zen, etc. Mais il gardait toujours, il n'était pas du tout un érudit. Il avait dit que le seul livre, il n'a jamais fini un livre de sa vie, sauf le livre de Suzuki, Esprit zen, Esprit neuf. Et il est devenu un maître zen. Et donc, lui, il avait dit, il y a une anecdote qui est dans un livre à propos de sa vie, où il y a un mec qui est venu le voir, pour lui raconter toute son histoire, son problématique, et il avait plusieurs possibilités de choix qu'il pouvait faire, chemin qu'il pouvait suivre dans une situation. Je ne me souviens pas les détails de la situation. Je ne sais peut-être même pas donner. Et donc, Issan écoutait tout ça, et le mec, oui, donc je pouvais faire ceci ou je pouvais faire cela, mais si je fais ça, je ne fais pas ça. Et donc, à la fin de tout son discours, le type dit à Issan, alors, qu'est-ce que tu penses que je dois faire? Et Issan dit, je ne sais pas, je viens d'arriver. Donc, je viens juste d'arriver. Et cette « vient juste d'arriver », c'est la même chose que le temps n'arrive jamais. C'est la même chose que si tu ne veux pas quitter le Zendo, n'y rentre pas. Tu y es toujours. Tu viens juste d'arriver à tout, à chaque instant. Vient juste d'arriver.
En anglais, c'est quoi? Just arrived?
I don't know. I've just arrived. Just arrived. Et donc, c'est juste arrivé, c'est ça. Donc, je vais essayer d'élaborer ça d'une autre façon parce que c'est peut-être un peu... je vois un peu les visages un peu consternés. Donc,
tu peux répéter, qu'est-ce qu'il a dit? Je deviens dingue ou je viens dingue?
Je viens juste d'arriver.
J'ai entendu, je deviens dingue.
C'est peut-être une... On devient un peu dingue avec ça. Hein. Je ne sais pas, je viens juste d'arriver.
D'accord.
Parce que pour Issan Dorsey, ce type, l'enseignement de Dogen, Uji, on dit que au milieu de le travail ou une discussion ou quelque chose, souvent il disait Uji. Où il y a ce truc Uji qui est là de nouveau. C'était un peu son leitmotiv, c'était Uji. C'est le temps, étant le temps.
Issan disait ça.
Quoi ?
Issan disait ça.
Issan disait ça. Parce qu'il était fasciné par cet enseignement de Dogen Uji. Enfin, fasciné, il vivait ça, quoi. C'était son. C'était aussi quelqu'un qui. Donc, il était au milieu de San Francisco, le monde gay, quand le sida est arrivé. Et c'était terrible, terrible, terrible à San Francisco. Parce que c'était un haut lieu de communauté gay et c'était les gens morts de gauche et à droite tout le temps. Et donc lui, il avait fondé même un hospice pour des soins palliatifs. On dit un hospice ? Non, je ne sais pas. Pour les hommes ou les femmes qui avaient le sida, qui traitaient les gens qui avaient le sida. Et lui, son expérience au milieu de ça, c'était qu'il a eu une profonde réalisation que la vie d'un individu, juste la vie avec toutes ses particularités, un peu ce qu'on disait de moi-je, qu'on parlait ces derniers jours, en fait, au milieu de cette... vient juste d'arriver, de cette... temps qui n'arrive jamais, bien sûr que ça avait ses particularités, mais ça n'avait pas l'importance qu'on y pense. C'était juste une autre manifestation qui n'y était plus, la vie. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de compassion, qu'il n'accompagnait pas les gens, mais il pouvait les accompagner avec plus de justesse et plus de profondeur parce qu'il n'était pas attaché à cette vie en particulier. Il pouvait être pleinement avec chacun. Chaque vie et chaque famille qui, parce qu'il accompagnait les familles aussi qui ne voulaient pas, qui étaient dévastées par ça, etc. Et les amis et les amants et tout le monde étaient complètement bouleversés par cette histoire. Et lui-même, en 1990, il est mort du sida, en fait. Alors, où est-ce que je veux venir avec ça pour voir ça un peu plus concret pour nous? Ça rejoint aussi le sujet qui est venu hier des vœux. Quand on parlait des vœux hier, innombrables sont les êtres vivants. Donc, on va venir après à la deuxième partie, le vœu qu'on fait. Mais, innombrables sont les êtres vivants. Et puis, on va dire, inépuisables sont les illusions. Et on va dire, sans limite est la réalité et insurpassable est la voie du Bouddha. Donc, c'est ces trucs impossibles. C'est, il n'y a pas de limite, c'est juste infini, le nombre de gens. Mais l'aspect impossible appartient au temps et les limites de temps et espace. Si c'est toujours, je viens juste d'arriver, l'innombrable être vivant, c'est l'être qui est devant moi. C'est chaque être, que ce soit une fourmi, une fleur, la personne que je rencontre au marché, des gens de ma famille, tout, chacun, à chaque instant. L'instant vient juste d'arriver et l'être vivant aussi. Et c'est ça, si on ne se fait pas attraper par nos concepts de temps et espace, il y a un truc dans la gorge. De le zendo, je suis dans le zendo et je vais quitter le zendo. C'est tout le temps, chaque instant, chaque être qui, à qui en, je donne mon total attention. Donc dans le cas d'Isan, il a pu faire ce qu'il a fait parce qu'il n'était pas attaché à un seul être, à une seule personne, une seule vie. Il était, disons, attaché à toutes les vies. Bon, ça, ce qui implique qu'il n'était pas attaché. Enfin, c'était, il inclut, il a essayé d'inclure toutes les vies, toutes choses qui survenaient, toute situation. Et bon, il ne faut pas... Donc, souvent, quand on entend ça, c'est que on va gober les particularités, on va enlever les différences et on va plus prêter attention aux détails, aux particularités, aux individualités. Mais on peut mieux voir les détails et les individualités si on n'est pas attaché à une chose, un moment, une façon de se manifester. Si on voit que tout est une manifestation de ça, de notre nature, de ce qui est, en zen, on dit le mu, si tout est une manifestation de ça, on peut apprécier les différences parce qu'on voit l'essence. Alors, quand on dit, et si on revient à le Uji, je viens d'arriver, donc c'est toujours frais. Donc, je viens d'arriver. Et donc, c'est nouveau, cette situation, cette personne. Ce qui est approprié. Si je viens toujours, comme on dit souvent cet exemple, si je traîne avec moi un marteau et un clou, et pensant que c'est la solution à tout, si j'arrive dans une situation et j'ai besoin d'un tournevis, je vais être bien emmerdée. Donc, on ne peut pas s'attacher à une solution, une façon de faire, une façon d'être, croire que la situation va être toujours pareille. Tout change tout le temps parce que le temps vient juste d'arriver et le temps n'arrive jamais, en fait. Donc innombrables sont les êtres vivants, donc on vient à la partie inkikinan qui est le mot sauver. J'ai oublié de regarder ce que c'était cette citation dont on avait hier, que il y avait fix, help et servir, fixer, aider et servir. En tout cas, c'est dans le fixé, donc réparer, il y a cette impression qu'il y a quelque chose qui est cassé. Dans l'aider, il y a une notion de inégalité. Donc, moi, je suis mieux et donc je vais aider le pauvre petit qui est cassé. Dans le servir, c'est la vie qu'on sert. Il n'y a pas une notion de meilleur ou moins bien, de quelqu'un qui est plus haut que l'autre, bien que notre attitude habituelle envers cette quelqu'un qui sert, qu'il est moins. Mais quand on parle de cette place d'unité, on est égal, on est un. En te servant, je me sers, en fait. Et on a cette expérience dans le yogi qu'on fait ici, là, comme ça. Chacun est servi et chacun sert. Et c'est un balai, c'est un cercle, comme ça. Donc, si on regarde ce mot « sauver », et évidemment, c'est une traduction de chinois, et peut-être... Il y a beaucoup de différentes traductions. Beaucoup, donc je n'ai pas regardé tout, mais la version qu'on a, c'est la version qui est venue des années 60, ou peut-être au-delà, je ne sais pas. Dans notre monde judéo-chrétien, en fait, hein, donc, en Occident. Bien qu'il y a des centres zen qui ont changé et qui ont mis, comme on a dit, accueillir, servir, voir, recevoir, reconnaître, respecter. Il y a tout un tas de verbes qui ont été employés pour ça. Quel est le cœur de la chose? Donc, comme hier, quand la question a été posée à Lisa, et donc elle avait dit cette chose, servir, quoi. Et quel est le noyau de tout ça? Quel est le comment on dit en français, the lowest common denominator dans les mathématiques? Dénominateur.
Le dénominateur commun. Le plus petit dénominateur.
Voilà. Souvent, c'est considéré comme quelque chose de pas bien quand on emploie ça dans le langage. Mais en fait, ça nous permet de venir à ce qu'on partage. Qu'est-ce qui est commun? Qu'est-ce que, si on revient au plus petit, au plus décortiqué, qu'est-ce qu'il y a? Qu'on enlève tout ce qui nous sépare, qu'est-ce qu'on partage. Et donc, dans tous ces mots, tous ces verbes, qu'est-ce qui est partagé? Évidemment, dans les définitions de sauver, il y a beaucoup de préjugés, beaucoup d'idées, et il y a cette notion de... moi, je suis OK, je suis intact, je suis bien et je vais sauver toi, pauvre, qui n'est pas, qui manque quelque chose, qui est cassé, qui est plus petit que moi, qui est perdu, qui est en train de se noyer. Et moi, je suis nickel et je vais me sauver. Bon, j'exagère un peu, mais il y a quand même y a cette présomption qu'il y a des gens qui ont besoin d'être sauvés. Il y a une autre célèbre anecdote, c'est le bouddhiste psychiatre, psychanalyste Mark Epstein, américain, qui a écrit plusieurs livres, qui a été visiter Ramdas étant un grand maître pas bouddhiste, qui a étudié en Inde avec des grands maîtres et qui est revenu, qui a pris le nom Ramdas, qui était auparavant était un scientifique à Harvard, qui avec Timothy Leary avait exploré tout LSD, les psychédéliques, et en faisant tout ça, il est allé très loin dans ça et il s'est rendu compte qu'il allait trouver la réponse plutôt en Inde. Il n'allait plus pas prendre, enfin, trouver ça en prenant le LSD tout le temps. Donc, bref, il est revenu et il est devenu un grand maître, très célèbre. Et Mark Epstein va le voir dans ses dernières années, quand il avait eu un AVC très sévère. Et il était paralysé, je crois. Il pouvait se servir un peu de ses bras, je crois. Et il parlait, mais très mal, et très... il a fallu s'approcher pour entendre. Et donc, Epstein lui a posé des questions, quelque chose. Enfin, lui faisait un discours, probablement, de ce que c'était sa pratique, et auquel il aspirait. Et parmi les choses qu'il aspirait, c'était qu'il voulait trouver, par tous les moyens possibles, de sauver tous les êtres. Cette même notion. Et donc, Ramdas, il dit quelque chose, Ramdas. Et Epstein ne comprend pas ce qu'il a dit. Et donc, il dit, quoi? Il s'approche. Et donc, Ramdas lui dit, déjà sauvé. Les gens n'ont pas besoin d'être sauvés, ils sont déjà sauvés. C'est quand on dit cette, j'ai fait le vœu de les sauver, on ne parle pas de ça. On ne parle pas de. C'est plutôt voir, accueillir, servir, honorer, respecter. Ce qui est impliqué dans ce mot sauver, c'est ça. Et Ramdas était en train de montrer à Epstein comment il pouvait voir son travail de Bodhisattva autrement, de le replacer ça, que les gens n'ont pas besoin d'être sauvés, mais ils ont bien ils ont besoin d'être entendus, vus, accueillis. Et on peut leur servir. Je crois que vous avez dit ça hier, c'est que peut-être en les voyant, c'est comme ça qu'on les servant véritablement, c'est comme ça qu'on les sauve, si on veut rester avec ce mot sauver. Et comme on a dit hier, ça fait des années que je réfléchis à quel mot mettre à la place de ça, parce que je n'aime pas ce mot sauver. Mais je fais confiance, c'est un courant pour moi. Et donc, je sais qu'à un moment, il y aura une réponse qui vient et ce sera ça. Donc, pour l'instant, je ne sais pas. Alors, si on revient à innombrable, ce sont les êtres vivants, je fais le vœu de les voir tous. Comment je peux voir tout le monde? Je vois la personne devant moi. C'est ça dont il s'agit. Comment je peux accueillir tout le monde? Je ne peux pas ouvrir ma maison et accueillir toutes les malheurs du monde, on dit souvent ça. Et d'ailleurs, les pays disent ça. On ne peut pas ouvrir nos frontières et accueillir toutes les malheurs du monde. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'accueillir là, la personne devant moi. Il s'agit d'accueillir de tout ce qui est, toute la vie. Toute la vie, si on veut ouvrir plus. Ça veut dire de servir. Comment on le sert? On le sert en l'accueillant, en répondant à la situation, à cette personne demande, ou à notre relation, ou s'il faut planter les graines, il faut planter les graines, on sert les graines de cette façon-là. S'il faut arroser les plantes, on les sert comme ça. C'est répondre à la situation. Donc, comment on peut remplacer ça? Je fais le vœu de les respecter tous. Donc, respecter, c'est les voir en tant que tels, de les accueillir en tant que tels, cherchant pas à qu'ils soient autres. Parce que souvent, c'est ça. On ne voit pas les gens parce qu'on veut qu'ils soient autres. On n'aime pas qu'ils font ceci ou cela. Et donc, on ne les voit pas véritablement. Donc, toutes les verbes qu'on peut mettre là, c'est ça. C'est ça le sens de ça. Et le début, innombrable, c'est, et le vœu que je fais par rapport à ça, c'est juste arrivé, vient juste d'arriver. On vient à l'autre, à le prochain, le deuxième vœu, qui est inépuisables sont les illusions. Donc, pareil. L'illusion dont il s'agit, c'est l'illusion là maintenant. L'illusion vient d'arriver. Donc, je fais le vœu d'y mettre fin. Donc, mettre fin, c'est un peu comme quitter le zendo. Alors, c'est comment, si c'est inépuisable, cette illusion, je peux mettre fin. C'est à chaque instant. Donc, à cet instant-là, je vois, ah oui, tiens, waouh, j'ai pas vu ça. Je suis en train de me fixer quelque part. Je vois pas que je ne vois pas l'autre véritablement. J'accroche à ma colère. Enfin, toutes ces, parce que toute tentative d'accrocher ou de fuser quelque part, c'est une illusion. Parce que ce n'est pas possible. Comme je disais, comme on dit, c'est impossible. Et donc, c'est inépuisable parce que, un peu de la même façon, c'est toujours là. Et donc, à cet instant-là, je vois cette illusion. Et en le voyant, j'y mets fin, en fait. Et puis, il y a un autre. Et en le voyant, je vais mettre fin. En voyant, bon, en l'accueillant, il y a un autre pendant de ça, que peut-être ça c'est un autre talk, mais il y a une phrase qui vient des sutras qui dit l'illusion et l'illumination. Parce que si on voit si on est véritablement un avec notre illusion, il n'y a plus d'illusion. Parce qu'il s'agit d'être un. Et donc, si on est véritablement un avec ça, c'est là où le temps, c'est pareil. C'est que là, ça vient d'arriver. Si on est vraiment présent, il n'y a pas de temps. Si on est vraiment présent, il n'y a pas de temps. Et si on est un avec notre illusion, c'est-à-dire qu'on l'accueille pleinement, on est un, il n'y a plus d'illusion. Parce que l'illusion, c'est la séparation, en fait. C'est figé dans la dualité, c'est l'illusion. C'est ne pas voir l'aspect non-duel de la vie, en fait. Donc, c'est ça. Et on dit que quand on voit la non-dualité, bah, ça, c'est l'illumination. Bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais... C'est une façon de regarder ce deuxième vœu. Le troisième vœu, pareil, sans limite et la réalité, je fais le vœu de le voir. Sans limite, ça veut dire que dès qu'on va mettre les paramètres et dire ça c'est la réalité et ça ce n'est pas, c'est comme le Zendo. Dès qu'on dit que ça c'est le Zendo et ça c'est pas le Zendo, bah, on va avoir des problèmes. Et si on peut voir juste, vient d'arriver, ici et maintenant, c'est ça la réalité. C'est ça. Et en faisant ça, on s'ouvre nos champs. Parce qu'on peut voir que ça aussi, c'est la réalité. Si c'est la réalité là où je suis toujours, bah, c'est la réalité quand je suis dans mon lit et quand je suis dans la cuisine, quand je suis en train de marcher, quand je suis en train d'être dans la voiture. C'est ça. C'est juste une différente manifestation de ce qui est, disons. Et puis, parfois, ça pose problème aussi. Le dernier, insurpassable est la voie du Bouddha. Autrefois, c'était « je fais le vœu de l'atteindre, d'y arriver ». Et peut-être même dans certaines sanghas, c'est toujours comme ça. Hein. Peut-être, non ? Quoi ?
Dans les sanghas tibétaines, oui, c'est d'atteindre...
Oui, c'est ça. Donc, à un moment, je ne sais pas à quel moment, on l'avait remplacé. Je ne sais pas. C'était il y a 30 ans, je ne sais pas. Je fais le vœu de l'incarner. Parce que si on dit... L'atteindre, ça veut dire qu'il y a quelque chose et il faut y arriver. Quoi ? Il y a un but. Ouais. Et c'est ailleurs. Cette voie du Bouddha, c'est ailleurs. Je ne suis pas dessus, mais je vais y aller, je vais y arriver. Ok, donc ça c'est juste pour cette deuxième partie, quand je dis, je fais le vœu de l'incarner. Parce que dans la zen, on estime que c'est une voix incarnée. C'est qu'on manifeste cette voix. On est la voix, et donc on la manifeste. Alors, si c'est insurpassable, ça donne l'impression que c'est meilleur. Les autres sont ou pas aussi bien. Mais ce n'est pas ça, évidemment. Ou que c'est plus haut que les autres. Il n'y a rien de plus haut, disons, dans cette impression. Ou plus vite, ou plus loin, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça. Encore une fois, ça revient à « il n'y a que ça ». Il n'y a que ça, donc c'est insupportable parce qu'il n'y a pas, il n'y a rien d'autre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres voix, mais toutes les voix sont ça. Donc, la voix tibétain qui dit c'est ce qu'ils disent, c'est ça. Et ça aussi. Les voix chrétiens, les voix athées, les voix capitalistes, les voix communistes, toutes les voix sont ça. Mais on... Ah oui, je vois les doutes qui se lèvent. Ça veut juste dire que ça inclut tout ça. Que ça ne veut pas dire que toutes les voix, quand je dis communiste et capitaliste, ça ne veut pas dire que ils œuvrent pour le bien-être de tous les êtres. Ce n'est pas ça. Mais si on commence à faire des tris, ça, c'est la vie, et ça, ce n'est pas, ben on fait ce qu'eux, ils font. Et dans cette voie non-duelle, qui est la nôtre, tout est inclus. C'est ça, cette notion d'insurpassable. Mais quand on ajoute la voie du Bouddha, Bouddha, c'est éveillé. Donc, l'éveillé, l'éveil, ça veut dire qu'on voit la totalité, on voit l'unité. Et donc, je fais le vœu d'incarner l'unité dans ma vie. Évidemment, je ne vais pas arriver. Enfin, je vais arriver de temps en temps, par certains moments, mais je fais ce vœu d'essayer de faire ça. Et ça rejoigne cette histoire de rentrer dans le zendo et le quitter. C'est-à-dire que si on peut voir que la vie entière est la voie, bah, la vie entière est aussi le zendo. C'est ce qui est marqué sur notre site web quand on a créé ça, quand j'ai fondé cette sangha, c'était que l'univers est notre zendo et la terre est notre hôtel. C'est parce que c'est ça. Donc, où est-ce que tu vas aller? En quoi qu'on va quitter le zendo, mais où est-ce que tu veux aller alors? Tu es toujours dans le zendo. Enfin, évidemment, il y a les différences. On crée un espace et on dit, voilà, ça c'est le zendo, et ici on fait cela. Et on... Dans la cuisine, on fait d'autres choses. Dans la salle de bain, on fait d'autres choses. Sur le chemin, quand on a marché hier, si on disait que c'était que pour les voitures, ben, on n'aurait pas pu marcher. Et donc, il y avait les piétons, il y avait des vélos, il y avait des chiens, il y avait d'autres choses sur ce chemin, et des voitures, et des camions, et des différentes sortes de voitures, différentes chaussures, différentes mesures de pas, sur cette voie unique, disons. Mais tout y est. Oui, comment dire, si on... Ok, donc, on a attribué l'activité dans cette pièce à s'asseoir, méditation, et marcher, et écouter les talks, et manger en orioke. C'est ça qu'on avait décidé dans cette pièce. Et on vient pour ça. Et c'est... On fait que ça, en fait, ici, dans cette pièce. Et c'est difficile. C'est difficile. Mais plus on fait ça, plus on se consacre à ça, plus on peut voir comment ça s'étend. Donc, quand on sort d'ici et on travaille dans la cuisine, ça s'étend. Quand on a fait notre marche hier, notre balade hier, ça s'étend. On marchait, c'était juste une autre façon de méditer, disons. Et c'est pour ça que j'ai demandé que ce soit en silence, pour nous aider à amener cette attention à ça. On est revenu et on a fait la méditation sur le petit kiosque de méditation. C'est kiosque de méditation ? Non, c'est quoi ? Oui, c'est ça. Tout ça, c'est le zendo. Tout ça, c'est le zendo. Bien qu'ici, c'est attribué juste cette chose-là, j'imagine qu'il y a des gens qui vont sur ce kiosque de méditation, ils ne font pas du tout de méditation. Hein. Il y a certainement des enfants, des oiseaux, je ne sais pas qui va là-dessus. Mais ça aussi, c'est toujours le zendo. Tout est un lieu de pratique, disons. C'est ça que Gimpo voulait dire, c'est que tout est un lieu de pratique parce que tout est pratique. Si on limite ça à juste une retraite zen, on fait des retraites zen, des journées de zen, des soirées de méditation. On fait tout ça pour nous aider à se poser et d'ouvrir aux différentes possibilités de s'étendre, de s'ouvrir pour que ce soit de s'exprimer ou que d'accueillir. On fait ces choses, on prend ces moments-là comme un entraînement, comme une pratique d'approfondir, de se poser pour mieux se lever et aller dans le reste du zendo, plutôt que juste rester dans cette partie-là du zendo, c'est pour aller dans tous les zendo, et se donner à tous les êtres et à tout ce qu'il y a à faire ailleurs, qui n'est pas ailleurs en fait, parce que le temps et l'espace viennent d'arriver. Et donc c'est truc de Isan, quand le type est en train de lui demander qu'est-ce que je dois faire si je fais ça, je ne sais pas, je viens d'arriver. C'est que c'est maintenant, c'est ici maintenant. Et que plus on reste juste avec le temps vient d'arriver, ça rejoigne un peu ce que je disais l'autre jour, de ne pas bouger de l'instant. En fait, c'est la même chose. De rester, où on dit demeurer dans le non-demeure, on dit aussi. Le non-demeure, c'est demeurer comme un colibri qui bouge tellement vite qu'on a l'impression qu'il ne bouge pas. Oh, bienvenue. Bonjour.
Le colibri qui
arrive. Ça vient d'où ? Disons-nous. qui bouge tellement vite qu'il bouge pas. Enfin, c'est où je sais pas si ça existe toujours, mais autrefois pour traverser le Manche, il y avait ce qu'on appelait des hovercraft. C'était les. Ça existe toujours. Quoi ?
Je crois que c'est fini.
Il y a toujours des ferries, mais il y a plus ça. c'était les bateaux qui ne touchaient pas, en fait, qui touchaient pas la mer, qui bougeaient comme ça. Bon, on avait l'impression de bouger quand même, mais c'était intéressant comme notion de hover. Je sais pas comment on dit ça, hover en français.
Planer, peut-être. Planer, c'est assez rapide. C'est planer, mais immobile.
Oui. Donc, si on peut... Quoi ?
Flotter un peu.
Oui. Oui. Non, c'est ça, demeurer dans le non-demeure. Pas tellement le hovercraft, mais le colibri. C'est rester dans ce qui bouge tout le temps, qui vient d'arriver. Et pour qu'on apprécie que ça vienne d'arriver, il faut bouger tout le temps. Il faut toujours être en train d'arriver. Et se poser là, dans la « vienne d'arriver ». Se reposer, parce que ça paraît encore un truc zen qui... contraire, comment on peut se reposer dans quelque chose qui bouge tout le temps, parce qu'on a l'impression que c'est pas reposant. Mais la raison pour laquelle on a l'impression que c'est pas reposant, quand on est affairé à mille choses dans tous les sens, j'ai pas de temps, c'est parce que on est très attaché, on essaie de se fixer tout le temps. Moi, quand j'ai commencé cette pratique, j'avais un grand problème avec le temps. Et j'avais un montre et juste avant d'avoir commencé cette pratique, j'étais au Maroc et en arrivant au Maroc, j'ai enlevé ma montre et je ne l'ai jamais remis. Et ça, c'est plus de 30 ans, je n'ai jamais remis un montre sur le bras. Bon, aujourd'hui, j'ai des téléphones portables qui sont dans la poche ou dans le sac, mais la montre, jamais. Parce que je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de temps. Et quand j'étais toujours en train de regarder le temps qui arrive ou qui n'arrive pas ou qui est en train de partir, j'étais plus du tout ici. Plus du tout. Et cette montre était un fléau, quoi. C'était... J'en veux plus, hein. Donc, si on vient dans cet espace-là pour faire ceci, ça nous permet de s'ouvrir à cet espace est partout. Et ce qu'on fait est partout. La vie et la pratique sont un. Quand je sors d'ici, certaines vont prendre leur voiture, faire de la route. C'est la pratique, ça. Rentrer chez soi, régler un problème qu'il y a peut-être, c'est la pratique, ça. C'est la voie du Bouddha, ça. Et donc, on est toujours en train de... Les quatre vœux sont toujours présents dans cette activité. Ça peut être aussi bête que... si on inspire et on expire, ça, je pense que c'est peut-être un moment. Si on dit... je veux pas perdre cette respiration. Souvent, ce qui se passe, c'est quand on donne aux gens l'instruction dans la méditation de... compter leur respiration, tout de suite, la respiration devient déréglée. Mmh. On ne sait plus comment respirer. Est-ce que c'est assez bien? Est-ce que je... et dès que... Donc, imaginez qu'on dirait, je ne veux pas lâcher cet inspire. Je ne vais pas expirer, je vais mourir. Ou on dit, il n'y a que cette respiration-là... l'autre va être problématique ou il ne va pas venir. On peut avoir peur que je vais... Moi, en étant très malade, autrefois avec le Covid, il y avait ça, il y avait... On ne pouvait pas respirer. Donc, on peut avoir une situation de ça, si on est dérangé ou si on a l'asthme ou quelque chose comme ça. Mais si on, et même là, ça c'est une autre histoire, même là, on peut rester juste dans cet instant. Mais nous, qui respirons normalement, etc., on inspire et on expire. On a cette idée que c'est inspire-expire. Mais en fait, c'est juste une chose continue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si on est dans cette « vient d'arriver », c'est juste ça, juste ça, juste ça. Et cette technique de compter la respiration, c'est très bien. Moi, ça m'avait, à un moment, été très, très important de faire ça au début de ma pratique. Et c'était vraiment très, très fort. Maintenant, je vois ça un peu différent, mais je ne dis pas aux débutants, parce que c'est... ça peut être problématique, c'est que je dis, en fait, on n'arrive même pas à 1. Parce que dès qu'on dit 1, on est déjà fixé quelque part, il faut recommencer. Donc, je donne ce truc de compter jusqu'à 10, et puis si on se perd, on revient, etc. Mais en fait, la vérité, c'est que même si on arrive à 1, on est déjà fixé. Donc, et on réalise ça, si on fait vraiment cette technique, j'ai réalisé ça en faisant vraiment cette technique, c'est ça. Donc, c'est encore un paradoxe, il faut le faire, il faut s'y donner entièrement pour réaliser ça. C'est pareil avec tout ce qu'on a dans cette pratique, c'est tous les rituels, il faut chanter comme ça, il faut prosterner comme ça, il faut faire ça à cet instant-là et pas à un autre, il faut faire le nœud d'Ryoki comme ça et pas d'une autre façon. Toutes ces idées qu'on a, mais c'est comme l'assise. Il faut vraiment le faire pour voir qu'il n'y a rien à faire, en fait. Et donc... c'est juste ça à faire. Il n'y a pas d'autre chose à faire. Quand on marche. Donc on fait une marche ici. Mais ça peut aussi marcher dehors sur un chemin. On marche ici, donc on lève le pied. Le pied derrière. Là, lentement. C'est difficile de savoir où commencer quand on parle de ça. Parce que c'est un seul pas continu tout le temps. Donc, le pied derrière, le pied devant. Donc, le pied derrière va se lever légèrement et le poids va se transformer, transférer, et puis on continue. Mais si on est attaché à le pied derrière, on ne va pas pouvoir le faire. Si on est attaché à le pied devant, on ne va pas pouvoir le faire. Si on a cette idée de avant, devant et derrière, on va être perdu. C'est comme entrer dans le zendo ou sortir et sortir de le zendo. Il n'y a pas entrer et sortir. Il n'y a pas pied devant et derrière. Il y a un seul pas. On continue. Si je pense que je ne veux pas finir mon verre d'eau, si je pense même que le verre d'eau va être fini, je ne vais pas le commencer parce que je ne veux pas le finir. C'est un peu l'histoire de rentrer pas dans le zendo si tu ne veux pas le finir. Ne bois pas l'eau si tu ne veux pas le finir. Et en même temps, on boit l'eau. Il n'y a plus d'eau dans le verre et on le lave. Mais si on dit « Ah, ça va être sale le verre, donc on ne va pas l'utiliser bah, », dans quoi on va boire l'eau ? On boit le verre et on le nettoie. Parce que c'est le temps qui vient d'arriver pour nettoyer. Le temps de vient d'arriver qu'il n'y a plus d'eau. Mais si on est dans la projection de ce qui va advenir, on va avoir des difficultés. C'est ça le cœur de question de cet homme qui a posé cette question, c'était qu'il anticipait déjà qu'il allait se passer ailleurs, à un autre moment. Ça l'angoissait, évidemment. Ça nous angoisse, ça. C'est l'origine de notre angoisse, en fait. C'est ne pas être juste avec ce qui est, ici, maintenant. Ça me fait penser à Isan, qui... Il y a un livre sur sa vie qui est très intéressant, qui est écrit par David Snyder, qui est venu à notre Zendo à Paris. Tu étais là quand il est venu?
Je sais, je crois pas.
Non. C'était quand on avait le centre. Mm-hmm. Hein, c'était, ouais. C'était pour un autre livre qu'il est venu. C'est un gars de Shambhala qui était dans le Zen à San Francisco et connu Isan et il a écrit son biographie, bref. Et donc, il y a aussi cette histoire que quand il était mourant, il allait mourir, et un de ses élèves est venu le voir, très ému, pleurant, pour dire au revoir, etc. Et il lui disait, oui, au revoir, maître, etc. Et puis, il s'en regarde et il dit, merci, mais tu vas quelque part. Très profond, quand même. Qu'il avait même pas, il n'était même pas attaché au fait qu'il allait mourir. Enfin, il allait mourir, il savait très bien. Il était gravement malade avec le sida. Il savait comment ça allait se passer, parce qu'il avait vu tant de gens mourir de ça. Le texte que... Je ne me souviens plus quel maître c'était, mais c'était... cité par Maizumi Roshi, je me souviens quel maître c'était, qui dit, un maître zen qui avait écrit un poème, et à la fin c'était « Ne vous désespérez pas, je vais toujours être là, simplement je ne vais pas répondre quand vous m'appelez. » Donc, c'est juste une autre manifestation. C'est une autre... Le temps vient d'arriver. C'est une autre circonstance. Je suis toujours là, parce que ça implique que je est là. Si on dit « je ne suis plus là », c'est le « je » qui n'est plus là. Donc, ce corps n'est plus là. Mais ce qu'il est... va toujours être là, mais il ne va pas répondre de la même façon. Et l'univers est toujours. Mais chaque phénomène, chaque aspect de l'univers répond différemment. Et si on est attaché à rentrer dans le Zendo et quitter le Zendo, on a du mal à s'ouvrir à ça. Que tout est toujours une réponse, tout est toujours une question et tout est toujours une réponse. Toujours un appel. Un appel à le temps vient d'arriver. C'est peut-être... ce qu'il y a à dire pour l'instant. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires, des confusions à éclaircir? Oui.
La première fois que j'ai entendu ce qui suit les vœux, c'est réveillez-vous, le temps s'écoule sans cesse. Et ça m'a frappé, interrogé. Le temps s'écoule sans cesse, ça veut dire quoi? Parce que dans la lumière de le temps, je viens d'arriver, il n'y a pas de temps, en fait. Il y a juste le moment. Et ce moment qui est... Le présent, je ne sais pas comment dire. Quand on est dans la présence, vraiment, il n'y a pas de temps. Donc comment le temps peut s'écouler sans cesse? Je n'ai pas compris.
Oui, bien sûr, parce que c'est un paradoxe. Ça semble contraire. Et cette chose qu'on chante aussi, ça vient de Dogen aussi, hein, cette chant. Peut-être dans différentes traductions, mais c'est aussi de lui. C'est que... comment on peut dire ça? Que le temps s'écoule sans cesse. Donc, éveillez-vous au fait que ça ne s'écoule pas. Que c'est juste, ça vient d'arriver. Et c'est effectivement dans le monde relatif et le temps de notre vie relative et ce corps qui vieillit, qui change, qui tombe malade, qui se casse, etc. C'est limité, absolument, c'est limité. Et c'est là où le temps s'écoule sans cesse. Et donc il ajoute, éveillez-vous au fait que... Bon, c'est pas ça exactement, mais c'est ça qui est impliqué. C'est éveillez-vous au fait que c'est juste ici maintenant. Et dans ce sens-là, on va nulle part, on arrive nulle part. Le temps va nulle part parce qu'il n'y a pas de temps. Ça vient d'arriver. Je viens d'arriver. Je suis toujours née à cet instant. Cet instant vient de naître. Toujours le début, parce qu'il n'y a pas de fin. Enfin, quelque chose comme ça. Mais effectivement, le zen est plein de paradoxes. Nous, en tant qu'êtres humains, on est plein de paradoxes. C'est le truc de Confucius, c'est ça, qui disait, on a deux vies. Le deuxième commence quand on voit qu'on n'a qu'une. Parce qu'on croit que on ne voit pas. On ne voit pas que c'est notre seule et unique vie. On vit un peu comme... Bon, on sait très bien quelque part que... Non. Mais on vit dans une espèce d'absence de présence qui nous empêche de vivre pleinement. Juste cet instant. Parce qu'on est toujours en train de penser à l'autre, un autre moment, le passé, le présent, le futur. Tandis qu'il n'y a que ça. Mais c'est vrai, hein, c'est un paradoxe. Et de même, ne gaspillez pas votre temps. Est-ce qu'on peut gaspiller notre temps? Voilà, est-ce qu'on peut gaspiller ce qu'on n'a pas? Mais que, comment? Mais une fois qu'on a vu ça, oui, on dit, ah non, c'est pas, c'est comme j'ai raconté l'histoire de le talent gaspillé, c'est pas gaspillé parce que je me donne entièrement à ça. C'est gaspillé quand on ne se réveille pas à ça. C'est ça. Oui.
Ça me fait penser, ça me donne envie de vous partager ça. J'avais travaillé un moment en soins palliatifs, il y avait une femme qui était en train de mourir de alors c'était pas la sclérose en plaques, enfin style de cette maladie, donc où c'est une maladie neurodégénérative et elle était déjà pratiquement presque, enfin elle pouvait plus bouger de son lit, donc elle était vraiment dans son lit. Et je me rappelle, enfin, pour moi, ça a été une révélation, cette dame, parce qu'elle était joyeuse du matin au soir. Et elle profitait de la vie. Elle profitait vraiment du moindre truc qui se passait. Si on ouvrait, par exemple, le rideau, elle s'émerveillait parce qu'il y avait la lumière qui arrivait juste à côté d'elle. Enfin, vraiment, c'était certainement un mètre, je ne sais pas d'où, mais moi, elle m'a vraiment marquée. Et ça illustre ce que tu dis aussi, ça, cette manière de pouvoir être dans le présent et de s'émerveiller de la seule chose dont elle pouvait s'émerveiller. Ça m'a vraiment, vraiment marqué.
Ouais. Et il y a plein d'histoires comme ça, des gens mourants. Hein.
Ouais.
Ouais, absolument. Parce qu'il n'y a plus de... Parce que on a lâché.
Voilà, comme elle n'a plus d'espoir de quelque chose, enfin d'espoir de pouvoir faire quelque chose, et ben, du coup elle profite de ce qu'elle voit. De la nourriture qu'on lui donne, de sa famille qui vient, enfin c'était vraiment touchant et moi ça m'a vraiment marqué.
Bah oui, et c'est Souvent, enfin souvent, c'est, j'ai entendu des histoires comme ça avec des gens mourants. Oui. J'ai eu une expérience un peu comme ça avec mon père mourant, où il était à l'hôpital et on venait tous les jours le visiter. Et on s'échelonnait pour que tout le monde n'était pas là au même moment. Et un soir, je suis arrivée. Il était semi-consciente. Ce n'était pas très clair, mais... Et ma mère était là, et c'était dans le pénombre de la pièce. Et ma mère dit à mon père, « C'est Amy. » Et le visage de mon père, je ne l'avais jamais vu comme ça. Radieux, mais d'une... Un sourire, il était radieux, totalement, mais bliss, béatitude, mais vraiment magnifique. Dans un premier temps, je pensais, oh, c'est parce que c'est moi. Mais j'ai compris que non, c'était pas parce que c'était moi, c'était un peu ce que tu décris là. C'était, il était juste tellement ouvert à ce qui est, tellement ouvert. Plus du tout de projection, d'attachement, de...
Oui, c'était enfin, dans le prolongement de ce que tu disais, enfin, une des paradoxes. Je trouve que faire le lien au quotidien, au niveau pratico-pratique, entre le relatif, c'est-à-dire notre vie de tous les jours, où on a des rendez-vous réguliers, où tout est timé, et de pouvoir en même temps se dire que, enfin, de devoir s'organiser dans ce relatif, donc en prenant quand même en compte, et en même temps avoir ce disons être dans l'instant, je trouve qu'au niveau pratique voilà, c'est pour moi c'est difficile, et donc je sais pas s'il y a des petits trucs, mais pas des solutions, ou c'est, enfin, pour moi c'est là la difficulté, c'est pas forcément de la compréhension, mais c'est le fait de faire le lien entre les deux au quotidien qui est difficile, quoi.
Oui. Et, bah, et c'est exactement ça dont on parle, hein. C'est cette... bon, dans une retraite, c'est aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Et on est demandé, on nous dit qu'il faut faire ceci à ce moment-là, c'est comme j'ai un rendez-vous à telle ou telle heure, on a un rendez-vous dans un dos à 16h... on a rendez-vous dans un dos à 20h, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui se passe, c'est qu'on fait une différence entre ça et les rendez-vous du boulot, ou des rendez-vous chez le dentiste, ou des choses comme ça, ou les tâches à faire. Et on avait cité l'autre jour ce film Perfect Days, où ce type, son boulot, en fait... Le film, c'est comme une retraite. Toute sa vie, c'est comme une retraite. Et ces activités ne sont pas du tout ce qu'on fait ici. C'est pas du tout ça, hein? Sauf nettoyer les toilettes. Il y a certaines parmi nous qui nettoient les toilettes. Mais le reste, c'est juste des activités quotidiennes de tous les jours. Ce qui change, c'est comment lui, il vit. Et comment lui, il approche ça. Qu'il n'a pas cet attachement qu'on a à... Ça, c'est le travail alimentaire, donc je dois le faire d'une certaine façon. Ça, c'est le loisir, donc je dois faire d'une certaine façon. Ça, c'est les enfants, donc je dois faire d'une certaine façon. Ouh, c'est dur, ça. C'est difficile, c'est fatigant quand on fait ces cases. Et plus on... Donc je reviens, hein, c'est plus on s'assoit, on peut... s'ouvrir à comment, justement, tu dis, mais comment on peut faire? Comment on peut ne pas faire ces catégories et vivre ces choses de la même façon, disons, avec la même attention, le même... peut-être qu'une chose qu'on peut faire, c'est qu'on donne les choses pour nous aider à se souvenir. Donc... il y a des gens qui mettent un post-it, tu sais, un truc sur leur ordinateur, avec une phrase qui va leur rappeler ça. Ou on met un mala qui nous rappelle, ah oui, c'est vrai. Ou il y a des gens qui, dans le Sangha de Thich Nhat Hanh, régulièrement, ils font sonner la cloche ou le téléphone, un rappel. Bernie Glassman, autrefois, c'était qu'à midi, tout le monde s'arrêtait. Partout dans le monde où tu étais, tu arrêtais à midi. Bon, midi à Paris, c'est pas la même chose que midi à Boston. Hein. Mais à midi, là où tu es, tu mets ta téléphone et tu t'arrêtes. Et tu fais 5 minutes ou 10 minutes, ce qu'il faut pour se rappeler. Il y a différentes techniques qu'on peut utiliser. Et plus, comme je dis, plus on s'assoit, plus on s'ouvre à cette... On s'ouvre de plus en plus et on voit que bah, tous les êtres sont... C'est innombrable. Tous les circonstances, c'est innombrable. C'est inépuisable. Les mes façons de voir les divisions et les séparations, c'est inépuisable. Et si on peut revenir juste à cet instant, on va le voir à ce moment, dans cette situation, et on va l'oublier. On va dans une autre situation, on va pas le voir. Mais c'est pas grave. C'est, l'important, c'est de temps en temps se souvenir, et ça va s'élargir. Et s'élargir. Et on va retrouver le... Ça ne veut pas dire que ça va être facile. Le boulot devient, peut être très difficile. Il peut être très compliqué. Les enfants, ça peut être compliqué. Ne pas savoir où je vais trouver l'argent pour réparer ma voiture. Enfin, il y a plein de questions qui vont être là. Mais c'est notre façon d'être avec ça qui change. Est-ce que, parlons du temps, est-ce que c'est le temps de...
Il est 1h30.
Oui, bah, il sera temps de manger.
C'est
ça. Ça vient d'arriver. Bon, merci.